Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, le Mexit, épisode 2. Après 10 jours de crise, Elisabeth II a tranché le vendredi 17 janvier. Harry et Meghan, pères de leur titre d'altesse royale, ne peuvent plus représenter la reine et devront rembourser certaines dépenses. Le prince Harry est arrivé le mardi 21 janvier au Canada, à Vancouver. Il a retrouvé Meghan et le petit Archie, âgé de 8 mois.
Prince Harry and Meghan Markle announced that they would be stepping back from their royal duties.
One British tabloid calls it Mexit.
Ce feuilleton passionne au Royaume-Uni et à travers le monde. Code Source vous raconte le Mexit en 2 épisodes avec Marion Lourd, la correspondante du Parisien à Londres. 2e épisode aujourd'hui donc, comment ce divorce est devenu inévitable. Marion Lourd, depuis son mariage avec Harry le 19 mai 2018, Meghan Markle est officiellement la duchesse de Sussex et après l'épisode de sa baby shower à 500 000 euros à New York, elle va être harcelée par les tabloïds.
On la surnomme la duchesse difficile. C'est effectivement une réputation de jeune femme capricieuse qui veut qu'on se plie à son moindre désir. Alors on raconte aussi qu'il y a plusieurs employés qui ont démissionné, peut-être parce qu'ils étaient maltraités, au moins 5, dit la presse tabloïde. L'image de Meghan Markle, qui était plutôt bonne quand même au moment du mariage, petit à petit a commencé à se dégrader.
I'm very excited to announce that Meghan and myself had a baby boy.
Le 6 mai 2019, le fils de Meghan et Harry, Archie, naît et le couple décide de ne pas autoriser les caméras de télévision le jour du baptême.
Alors, ils n'autorisent pas les caméras de télévision le jour du baptême. Ils communiquent Harry et Meghan avec seulement un journaliste de télévision. La première apparition même d'Archie, c'est quand même plusieurs jours après la naissance. C'est très différent de ce qui peut se passer avec Kate et William. Vous voyez, Kate, quand elle a accouché du petit Louis, de son dernier enfant, immédiatement après l'accouchement, s'est présentée sur le perron de la maternité avec toute sa famille. Là, on est sur quelque chose où on a un couple qui veut contrôler sa communication, qui ne veut pas rendre public tous les événements de sa vie privée, et y compris qui ne veut pas forcément en donner la primeur à la famille royale. C'est-à-dire que la presse tabloïde raconte que la reine n'a pas été prévenue la première lors de la naissance du prince Archie. Shocking au pays de sa majesté quand même.
Et le 25 juin, Buckingham révèle le prix des travaux d'aménagement de leur manoir à Windsor, Frogmore Cottage. La facture est élevée.
C'est une facture élevée, effectivement, qui est de 2 700 000 euros pour un couple qui avait déjà une résidence au palais de Kensington, qui est dans Hyde Park, en fait, qui est la résidence, l'endroit où se trouve aussi la résidence de William et Kate. Ils avaient déjà une résidence là-bas. Ils ont insisté pour déménager. La reine leur a donné, prêté une résidence sur son terrain de Windsor, donc plus éloigné du centre de Londres. Et il a fallu encore qu'ils refassent une partie de la résidence. C'est d'autant plus mal perçu par le public britannique que le couple ne joue pas le jeu en quelque sorte des médias. Ce qu'on dit à l'époque, c'est ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent payer la réfection de leur logement avec l'argent public tout en ne nous donnant pas un petit accès à leur vie privée, tout en ne montrant pas leur bébé, tout en ne rendant pas public leur cérémonie. Donc pourquoi bénéficieraient-ils des largesses du public ?
En octobre 2019, Harry décide de porter plainte contre plusieurs tabloïds britanniques, dont le Sun.
Alors, ils ont publié une lettre du père de Meghan, avec qui elle a eu quelques tensions. Mais finalement, on est sur quelque chose de plus large que ça. Ce que dit Harry en portant plainte contre ces journaux, c'est que il a l'impression que sa femme, lui, mais surtout sa femme, est une cible pour les tabloïds et il ne veut pas la voir succomber à ce qu'il considère comme des attaques. Il compare ça en fait à ce qui s'est passé avec sa mère Diana en 1997. Il ne veut pas qu'elle soit victime, il dit, des mêmes forces puissantes que celles qui ont tué ma mère. On est clairement sur un fait ponctuel, c'est-à-dire cette lettre du père de Meghan qui a été publiée illégalement, mais aussi sur quelque chose de plus large vis-à-vis de la presse tabloïde.
À la fin du mois d'octobre, après une tournée en Afrique, Meghan et Harry se confient dans un documentaire, mais un documentaire qu'ils ont eux-mêmes produit.
Ils laissent entendre leurs difficultés en tant que couple à être dans la vie publique britannique et notamment à être la cible des tabloïdes.
My British friend said to me,
mes amis britanniques m'ont dit, je suis sûr qu'il est génial, mais tu ne devrais pas l'épouser parce que les tabloïdes britanniques détruiront ta vie. Très naïvement, je suis américaine, nous n'avons pas ça là-bas. De quoi tu parles? Ça n'a aucun sens, je ne suis pas dans les tabloïdes. Je ne m'en rendais pas compte.
À l'époque, Harry reconnaît qu'il peut y avoir des difficultés aussi au sein de la famille royale, qu'il peut y avoir des tensions, notamment avec son frère. On a des bons et des mauvais jours, c'est ce qu'il dit, parce qu'on est frères. Après, il faut remettre dans le contexte tout ça, et il est dit de façon très, très polissée. Et ils disent leurs difficultés à faire face, en fait, à cette presse tabloïde, à cette attention permanente qui est portée à leur couple.
Au début de l'année 2020, le 8 janvier, Harry et Meghan annoncent qu'ils veulent vivre au Canada et qu'ils démissionnent de leur fonction de Senior Royals.
Oui, ça, ils l'annoncent en fin d'après-midi sur leur compte Instagram d'abord, puis sur leur site, dont on ignorait l'existence, un site qui s'appelle Sussex Royal, et qu'ils ont apparemment créé il y a quelques mois en réalité, mais qui était gardé secret. Et ils annoncent effectivement qu'ils veulent quitter ce rôle de Senior Royal, ça veut dire ce rôle de premier plan au sein de la famille royale, qui les oblige à participer à un certain nombre d'engagements officiels, à participer aussi aux interviews, à être couverts par la presse qui a été choisie pour couvrir la famille royale et qui les empêche de travailler. D'ailleurs, ils annoncent aussi qu'ils veulent devenir indépendants financièrement. Ils font cette annonce-là, qui est déjà un premier choc, hein, qui est retentissant dans la presse. On reçoit des alertes à des chaînes d'infos. C'est vraiment un vrai choc. Tout le monde ne parle que de ça. Mais tout le monde ne parle encore que de ça plusieurs jours après, hein. Et puis, dans la foulée, quelques heures après, on reçoit deuxième choc, si j'ose dire, on reçoit le communiqué de Buckingham qui explique que les discussions sur ce sujet de la démission du prince Harry et de Meghan en sont à leur tout début, que ce sont des questions difficiles, que ça va prendre du temps. Donc si on connaît l'art britannique de l'euphémisme, on se dit, en fait, peut-être qu'il n'était même pas au courant, ou en tout cas qu'il venait d'être mis au courant. Et ça provoque un choc dans la presse et dans l'opinion. On a les fans de la famille royale qui se ruent à Buckingham pour aller camper devant le palais de Buckingham et dire leur soutien à la reine, qui elle-même n'aurait pas été prévenue, ou alors au tout dernier moment.
Meghan Markle, critiquée, pointée du doigt par les Anglais comme responsable de cette situation. Elle américanise la famille royale, disent certains. D'autres parlent d'un Brexit, nouveau dossier qui ne fait qu'éclabousser la monarchie.
Il y a deux types de réactions en réalité. Souvent, les Britanniques qu'on croise, ils disent quand même, nous, on aime bien le prince Harry. Vous savez que c'était une personnalité très populaire, hein. Il a même été en tête des personnalités les plus populaires de la famille royale, devant la reine au moment de son mariage, pendant un court moment. Donc ils ne lui en veulent pas de sa décision et de vouloir prendre du recul. Ce qu'ils disent, c'est deux choses. Première chose, s'il prend du recul, s'il veut partir, il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, il ne peut pas bénéficier de l'argent public et s'en aller comme ça, loin de nous. Ça, c'est un peu la première réaction. Et l'autre réaction, c'est vis-à-vis de la reine, qui est un trésor national britannique. Et les Britanniques sont pour le moins choqués d'apprendre qu'elle n'avait pas donné son autorisation à ce communiqué du prince Harry, de son petit-fils.
La reine, que dit-elle ?
La reine, vous savez, elle dit pas grand-chose pendant un moment parce que elle communique très très rarement directement. En fait, la première réelle prise de parole officielle de la reine, c'est après une réunion de crise à Sandringham qui aura lieu quelques jours plus tard. Elle dit à la fois qu'elle est désolée, qu'elle aurait vraiment préféré que le prince Harry et son épouse gardent ce rôle de seigneur royal, de membre de premier plan de la famille royale. Et elle dit en même temps que c'est le droit du couple de vouloir prendre ses distances. Et donc, elle leur accorde une période de transition durant laquelle ils pourront essayer de s'installer en partie en Amérique du Nord, comme ils le souhaitent, et de trouver un nouveau rôle, de dessiner leur futur en quelque sorte.
Les modalités concrètes du départ du prince Harry et de son épouse Meghan ont été arrêtées finalement par la reine le vendredi 17 janvier.
Oui, en fait, tout ça s'est dénoué vendredi soir et s'est formalisé par deux communiqués. Un premier communiqué du palais de Buckingham et un deuxième communiqué de la reine, de sa majesté, elle-même en tant que souveraine et en tant que grand-mère. Le premier communiqué détaille les modalités de la rupture et notamment ce que le couple Sussex, le duc et la duchesse de Sussex, puisqu'ils gardent ce nom, ce que le couple Sussex perd en quittant ce rôle de premier plan au sein de la famille royale. Et ce qu'ils perdent en priorité, c'est l'appellation « Votre Altesse ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement qu'ils ne peuvent plus représenter ni Harry ni Meghan, la reine, dans des événements officiels et qu'ils ne peuvent plus être payés à ce titre. Ce que ça implique, à l'inverse, c'est qu'ils ont le droit, et Harry et Meghan, de travailler et d'être rémunérés par ailleurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Un coup dur peut-être pour le prince Harry, c'est qu'il doit aussi renoncer à ses fonctions au sein de l'armée. Et puis, il y a la question financière qui apparaît sans être complètement précisée. Ce qu'on voit, c'est que le prince Harry et Meghan vont cesser de dépendre de l'argent public. Alors, ce n'était pas en réalité la majorité de leurs revenus. En tout cas, ils vont cesser de toucher de l'argent public. C'est un peu ce qu'ils demandaient, en fait, hein, dans leur annonce au départ. Et non seulement ils vont cesser de toucher de l'argent public, mais en plus, ils vont rembourser ces quelques 3 millions d'euros qui ont été dépensés pour refaire la maison prêtée par la reine, Frogmore Cottage, sur la ville de Windsor. Ils vont donc rembourser cet argent qui était un peu l'argent du scandale, en fait.
Mais toutes les questions financières ne sont pas réglées.
Il leur faut une sécurité à ce couple parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont célèbres. Et aujourd'hui, leur sécurité, elle est payée par le contribuable britannique. Qui va payer maintenant, à l'avenir ? La presse disait récemment que le Canada était prêt à le faire, et puis il y a eu des revirements, donc on ne sait pas qui va payer pour la sécurité, et c'est sans doute beaucoup plus cher que ce que les contribuables ont payé pour la réfection de la maison. Et puis par ailleurs, il y a aussi la question de l'argent du couple. Aujourd'hui, Harry et Meghan ils touchent un peu plus de 3 millions d'euros par an de la part du prince Charles, c'est leur principale source de revenus. Nulle part dans le communiqué n'est fait allusion à cet argent. Ça veut dire que peut-être qu'ils vont continuer à vivre grâce à l'argent du duché de Cornouailles, qui est donc l'argent du prince Charles.
Est-ce qu'on peut dire que ce divorce est consommé ?
Il est consommé au sens où le prince Harry peut désormais quitter le Royaume-Uni pour aller rejoindre son épouse Meghan au Canada avec leur fils, et ils passeront sans doute là-bas une bonne partie de leur temps. Ils ne peuvent plus effectivement représenter la reine, ils vont sans doute développer leur propre fondation, puisque c'est ça qu'ils comptaient faire en effet, une fondation caritative, mais qui est aussi une ligne de merchandising, de vente de produits dérivés, qui peut aller jusqu'à des chaussures ou des pyjamas. Ils vont donc vivre cette vie-là, un peu éloignée de la famille royale, mais ils vont continuer à remplir leurs obligations, leur rôle caritatif, au sein des associations qu'ils parrainent, et ils vont continuer à remplir ce rôle, effectivement, en tant que membres, malgré tout, de la famille royale. D'ailleurs, le communiqué de la reine, vendredi soir, est très clair et très conciliant. Elle n'est pas en train de chasser Sa Majesté, son petit-fils de la famille. Elle dit « Harry et Meghan resteront des membres très aimés de la famille royale ». Elle dit aussi « Elisabeth II, qu'elle est fière de la façon dont Meghan s'est intégrée dans la famille et qu'elle est contente d'avoir pu trouver une solution constructive pour aider le couple à accomplir son projet de prendre son indépendance. Donc on voit bien que c'est un peu à contre-cœur que ce divorce est prononcé et qu'il n'est pas non plus une rupture franche, ou en tout cas c'est une rupture à l'amiable. Mais pourquoi est-ce que cette rupture à l'amiable, elle est inévitable? Parce que, d'une certaine façon, la famille royale, c'est une entreprise au Royaume-Uni, et que ce que se propose de faire le prince Harry et Meghan, c'est de monter une entreprise concurrente avec cette fondation Royal Sussex. Une entreprise comme la famille royale ne peut pas accepter de garder en son sein une entreprise concurrente, même si finalement, elle la chasse à contre-cœur.
C'est un échec pour la monarchie britannique ?
Oui et non. Oui, parce que Meghan était censée incarner une sorte de renouveau, une sorte de modernité, une femme différente de celle qu'on voyait arriver jusqu'ici dans la famille royale, et que la famille royale et le Royaume-Uni n'ont pas su retenir. Donc peut-être qu'Elisabeth souhaitait moderniser l'image de la royauté, et que ça n'a pas marché parce que cette Américaine était trop différente et puis qu'elle s'ennuyait sans doute dans le rôle dévolu à la femme du sixième héritier au trône, qui est finalement purement un rôle de représentation où elle n'avait pas vraiment de force, de pouvoir, d'initiative. En même temps, c'est un échec sans en être forcément un, parce que la famille royale, elle ne peut pas s'étendre à l'infini. Elisabeth recentre la famille royale sur son noyau dur, son noyau important, et le prince Harry et Meghan, qui pouvaient être source de problèmes, qui étaient un peu source de problèmes et de tensions avec la presse, s'en vont jouer un autre rôle ailleurs, tout en disant qu'ils continuent de respecter les valeurs de la reine. Autrement dit, la rupture est franche mais amicale, et finalement, ça ne se termine pas si mal que ça pour Elisabeth.
Le prince Harry s'exprime publiquement pour la première fois depuis l'annonce de sa mise en retrait, le dimanche 19 janvier, à Londres, à la tribune, pendant un dîner de charité.
Nous faisons tous les deux tout ce que nous pouvons pour hisser le drapeau et remplir notre rôle pour ce pays avec fierté. Une fois que Meghan et moi nous sommes mariés, nous étions excités, nous avions de l'espoir et nous étions ici pour servir. Pour ces raisons, je suis très triste que nous en soyons arrivés là. J'aurai toujours le plus grand respect pour ma grand-mère, mon commandant en chef, et je lui suis incroyablement reconnaissant, ainsi qu'au reste de ma famille, pour le soutien qu'ils nous ont apporté à Meghan et à moi au cours des derniers mois. Nous faisons un acte de foi, alors je vous remercie de m'avoir donné le courage de franchir cette prochaine étape.
Deux jours plus tard, le 21 janvier, le prince Harry atterrit à Vancouver sous l'objectif des paparazzi. Sur ses images, il porte un bonnet bleu sur la tête, sac en cuir négligemment jeté sur l'épaule. Il s'engouffre ensuite dans une berline et il va pouvoir retrouver son épouse et le petit Archie. Marion Lourd, ce feuilleton passionne au Royaume-Uni, mais aussi beaucoup de monde ici en France. À votre avis, pourquoi ?
Parce que ça nous semble, en tout cas, moi je pense qu'en tant que Française, ça me semble un petit peu suranné, toutes ces histoires de famille royale, d'argent public consacré à la famille royale. C'est quelque chose qui nous échappe complètement. Bon, on est dans une actualité au Royaume-Uni comme en France qui est un peu lourde. Au Royaume-Uni, on a le Brexit, les accords commerciaux, les problèmes de sécurité. En France, on a la réforme des retraites. Et cette actualité de la famille royale, ça nous apparaît finalement comme quelque chose d'un peu magique dans sa bulle, même si en fait elle est en réalité assez grave, cette actualité, en tout cas pour les personnes directement concernées. Nous, ça nous semble tellement exotique que c'est quelque chose de dépaysant, et en même temps peut-être aussi que ça pose des questions fondamentales sur, en tout cas au Royaume-Uni, sur quelle place pour la famille royale, quel rôle, est-ce qu'elle doit être aussi pléthorique qu'elle l'est aujourd'hui, prendre autant de place, est-ce qu'elle doit coûter autant d'argent, et ça fait partie aussi des questions qui se posent ici au Royaume-Uni.
Merci Marion Lourd. Conception et préparation de ces deux épisodes, Clara Garnier-Amouroux. Production, Stéphane Geneste. Réalisation, Benoît Laure. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires directement codesource@leparisien.fr.